18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, pour démarrer cette semaine. Vous êtes en vacances, très probablement. Je vous souhaite de passer un bon séjour, mais restez connectés au sein de la radio, y compris avec l'application, vous le savez, Beurre FM, sur votre portable qui vous accompagne partout dans le monde. Et puis, pour celles et ceux, ils sont nombreux aussi, à continuer de travailler. Oui, la France qui se lève aussi tôt. Je leur souhaite bon courage. On est ensemble. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission. Je vais ouvrir l'antenne. Les invités, c'est vous. Tout de suite, à 18h, je démarre avec vous. Vous pouvez nous appeler au standard. Le standard vous attend au 01 53 48 3000. Nous allons parler, vous savez quoi ? Alors, de cette affaire du meurtre Lola. Horrible. Abominable. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vos enfants. Nous allons nous intéresser à, vous savez, comment en parler à un enfant ? Comment vous en parlez-vous à vos enfants ? Comment vous en avez parlé de cette affaire Lola à vos enfants ? Tous, on a été confrontés à des enfants qui nous ont interrogés, posé des questions. Oui, mais cette Lola, pourquoi, etc. On a toujours, parfois on est un peu gêné, embarrassé, on ne sait pas comment répondre. Comment leur parler ? Comment parler de l'affaire Lola aux enfants ? Comment mieux faire pour protéger ces enfants aujourd'hui ? Est-ce que ça, c'est une question que vous vous posez ? Quand vous avez des enfants, est-ce que vous êtes arrivé vous dire, oui, il y a eu l'affaire Lola, l'horrible cette affaire, elle a 12 ans. Est-ce que ça peut arriver à mon enfant ? Jamais on se pose la question, c'est vrai. Tant que ça touche les autres, bon, on est là, oui, effectivement, on est sensibilisé, il y a l'émotion et tout, mais quand ça ne touche pas les nôtres, vous avez vu, c'est pas pareil. Et bien, vous savez quoi ? Je vais vous poser la question. Comment mieux protéger nos enfants ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient à votre esprit ? Est-ce que vous en parlez avec vous ? Avec vous-même, avec votre épouse, votre mari, bref, votre entourage, la papille, la mamie, enfin bref, tout le monde ! Le 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite là maintenant pour échanger avec vous. Tout à l'heure, le Quoi de Neuf, c'est avec Maître Franck Serfati, l'avocat qui reviendra justement sur l'affaire, le meurtre de Lola. Avec lui, c'est son billet d'humeur, le Quoi de Neuf à 18h30. Et puis, les débatteurs influenceurs seront là tout à l'heure pour confronter leur point de vue. On reviendra sur le budget, le Rassemblement National. Ça cogne, ça tacle au sein de l'Assemblée nationale. La motion de censure, tiens, tiens. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que la NUPES et le Rassemblement National peuvent faire l'affaire à eux deux pour faire fléchir, justement, le gouvernement ? Elisabeth Borne, est-ce qu'elle n'est pas en train de trembler ? Autre sujet, Meloni, la nouvelle patronne de l'Italie. Vous savez, Giorgia Meloni, c'est un peu la nouvelle Marine Le Pen. Mais finalement, on se pose la question. Avec Meloni, le Rassemblement National se voit déjà à l'Élysée. On en parlera tout à l'heure. Le FMI qui se dit pessimiste pour les économies européennes. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de déclin en Europe ou en France ? Ça mérite une clochette quand même, tout ça. Hein ? C'est vrai, non ? C'est vrai. Le FMI qui est en train de nous dire, attention les amis, la santé des économies européennes, eh ben, elle est en berne. Trin, trin, trin ! On reviendra sur la guerre en Ukraine, chers amis aussi. Avec quel scénario possible ? Parce que la question qu'on se pose ce soir, vous savez, la guerre en Ukraine, c'est tout simplement, est-ce que Kherson, bien sûr, est en passe d'être reprise par les Russes ? Mais surtout, on parle de bombes sales. On en parlera tout à l'heure au 0153, avec nos débatteurs influenceurs. Pour l'heure, c'est parti. Vous le savez, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant en toute liberté d'expression. Mais surtout, nous allons parler de Lola et de nos enfants, vos enfants. C'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais démarrer avec vous, chers amis. C'est avec vous. Vous êtes vous. Pendant une demi-heure, toute la demi-heure, je veux que le standard explose dans tous les sens parce que là, franchement, je vais vous dire, le meurtre de Lola nous concerne tous. Les parents, les arrière-parents, tous. La question qu'on se pose aujourd'hui, comment vous en parlez à vos enfants ? Forcément, vous en avez parlé. Mais surtout, comment vous protégez vos enfants ? Leïla de Saint-Étienne, bonjour Leïla.
Oui, bonjour, comment allez-vous?
Mais très bien, tout va bien?
Oui, hormis les petits, effectivement, les fêtes d'hiver, vous nous rappelez, mais sinon, oui, tout va bien.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Laïla?
Prof d'anglais.
Prof d'anglais. Donc, you speak English very well.
Yes, I do. And I live 3 years in Ireland.
Yeah, avec l'accent en plus. Je kiffe, ma chère Laïla. Ah là là, vous savez qu'en Angleterre, ça se bouge, hein, ça bouge. Hein. Il y a potentiellement le futur Premier ministre qui est d'origine indienne. Ça va être beau, hein, en Angleterre. Vous avez suivi.
Mais les Anglais ont toujours été tolérants. Donc, ça a toujours été tolérant. Ça a toujours été le pays de la tolérance, etc. Donc, c'est vrai qu'ils sont un peu plus avancés par rapport à nous.
Vous avez des enfants, Laïla?
Oui, j'ai 4 beaux enfants.
4 beaux enfants, magnifique. Alors, est-ce que, exactement, est-ce que vous en avez parlé à vos enfants de l'affaire Lola? Est-ce que vos enfants vous ont interpellé? Est-ce qu'ils vous ont posé des questions? Et qu'est-ce que vous leur répondez, Laïla? Moi, je vous comprends le temps qu'on en parle, ce soir, vraiment, parce que c'est des questions qui concernent notre quotidien. On ne sait jamais ce qui peut se produire.
C'est ça. Alors, moi, je suis avec mes enfants à qui j'en ai parlé, déjà, effectivement. Alors, j'ai pris ma fille, j'en ai parlé, parce que ça arrive à tout le monde. Et je lui ai montré la personne qui a assassiné et elle a été choquée en disant mais
à laquelle
c'est
âge
madame tout le monde en fait. Elle a 12 ans, elle est en 5e.
Ah, donc comme Lola.
C'est ça.
Elle a été choquée, vous dites, votre fille?
Elle a été choquée, elle en a pleuré, elle m'a dit je ne comprends pas, elle est à côté de moi, je ne comprends pas comment une femme peut faire ça à une autre jeune femme en fait.
Elle est à côté de vous, on peut échanger avec elle, elle peut venir en direct, comment elle s'appelle?
Oui.
Comment?
Elle pourra vous répondre.
Je m'appelle
Lou.
Lou? Nour.
Nour. Bonjour Nour. Comment ça va, ma chère Nour?
Bien.
Très bien. Parlez bien dans le combiné de du portable de votre maman. Alors, quand tu as parlé avec ta maman sur cette affaire, ta maman disait, Laïla, que tu étais choquée, Nour. Hein.
Oui, parce que pour moi, les femmes, elles se battent pour être solidaires entre elles. Et quand on m'a dit que c'était une femme qui avait pris Lola, c'était encore plus blessant, choquant. Et je me suis dit, l'humanité, elle va nulle part au final, elle se perd.
Magnifique, effectivement, ouais. T'en parles avec tes copines?
Oui, ça a circulé et ça a beaucoup circulé dans le collège. J'en ai parlé avec une amie et on s'est dit que fallait faire attention, quoi.
Ouais, ça veut dire vous-même entre vous, vous en parlez, vous dites il faut faire attention. Tu trouves aujourd'hui, Nour, que on vit dans une société qui est de plus en plus où l'insécurité règne?
Non, clairement pas.
Clairement pas. Qu'est-ce que tu tires de cette affaire de Lola, Nour?
Nour, elle est à l'internat, il faut savoir qu'elle est interne, elle est indépendante, elle a choisi un parcours musique, donc qui est loin de la maison, c'est quelqu'un qui est indépendant. Après, moi, depuis toute petite, je leur parle de l'insécurité, des enfants, des attouchements.
Oui. Donc vous les avez sensibilisés, Laïla?
Ah ouais, tout à fait. Je leur ai dit, s'il y a un oncle, un grand-père, un père, un beau-père, parce qu'effectivement, ça, je suis d'un deuxième grand mariage.
Mais ce que vous dites là, ce que vous dites là, on sait jamais comment amener la chose. Vous parlez de l'oncle, du grand-père, de ceci, ça. C'est compliqué d'en parler à ses enfants quand même. Comment on l'amène justement, Laïla?
Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été touchée sexuellement par mon grand-père.
Oui.
Donc, du coup, il m'a pas violée, mais m'a touchée. Donc, du coup, j'ai pu effectivement, j'en ai simplement parlé à mes enfants parce que je refuse que ça leur arrive et voilà quoi.
Donc, c'est la raison pour laquelle c'était un devoir pour vous naturel d'en parler avec vos enfants.
Ah oui, tout à fait. Et ça arrive pas qu'aux autres. Donc, pour vous dire, moi, j'étais dans une famille normale avec un grand-père qui a une très très bonne position dans la société. Et qui a fait ce qu'il a fait, quoi. Donc, ça arrive à tout le monde et il y a des fous partout.
Ouais.
Et ça, protéger nos enfants, c'est notre devoir et il faut leur en parler, hein. Faut pas croire qu'on habite dans un pays.
Ouais.
Tout est rose, hein. Donc, non, ça a été malheureusement. Faut pas en parler.
Donc, vous avez pris toutes les précautions pour mieux protéger vos enfants. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure.
Je ne sais pas après s'ils sont bien protégés, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Lola. Ça s'est passé quand même dans son immeuble, avec des caméras. C'est horrible. Mais en tout cas, j'ai essayé de leur expliquer les choses au maximum.
Eh bien, écoutez, donc il faut en parler, Leïla, c'est ça ?
Il faut leur en parler, ça touche tout le monde et c'est un sujet...
C'est compliqué comme sujet, hein.
Et voilà, quoi, il faut en parler. Il faut en parler, c'est pas un sujet tabou. Pas en 2022, c'est pas possible.
Est-ce que, je vous pose la question, Leïla, certains spécialistes disent... spécialistes, un psycho, évidemment, psychanalyste, etc., disent qu'il n'est pas nécessaire d'en parler à votre enfant s'il ne pose pas de questions, s'il ne demande rien. Vous partagez ou pas ?
Non, moi je ne partage pas parce que je pense que j'aurais été armée. Moi, j'ai été en fait touchée par mon propre grand-père.
Oui.
On m'aurait expliqué la chose, je m'aurais parlé rapidement. J'ai gardé le truc pendant très longtemps et je l'ai explosé à 20 ans en fait. J'ai raconté à ma mère qui m'est arrivée à 20 ans.
Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre
j'aurais
mère
préféré... Ma mère, elle m'a dit, j'espère que t'es vierge. Donc elle m'a dit, je suis 20 ans encore vierge, en fait. Enfin, c'est le seul sujet qui l'a préoccupé.
Quand vous dites que votre grand-père, il vous a touché, c'est quoi ? C'est des attouchements ?
Oui, c'est des attouchements, des masturbations devant moi, donc des cunis.
Ah oui.
Des choses qu'on fait à une jeune femme et pas à un bébé, quoi.
Oui. Vous aviez quel âge ?
Du coup, j'avais 8 ans.
8 ans. Et vous en parlez avec vos enfants, aisément ?
Non, pas comme ça non plus. J'ai pas eu dans les détails avec ma fille. Donc, elle s'est éloignée. Non, je lui ai simplement dit, voilà. Quand j'étais petite, mon grand-père m'a touchée. Et j'aurais dû en parler plutôt à ma mère. Maintenant, tu es au courant de mon histoire. Tu es au courant de ce que j'ai vécu. Si tu arrives la même chose, je veux que tu m'en parles.
Ouais. Et votre mère, elle vous a soutenue ?
Non, pas du tout. Non, elle n'a pas soutenu ma mère.
Ouais, parce que c'est tabou. Ils veulent pas en parler. Ils veulent essayer de.
C'est tabou, ouais. Alors, on a parlé à ma grand-mère. Elle lui a dit. Voilà ce que Leïla m'a dit, ma grand-mère m'a dit, mais elle a dû faire cette connerie en France et elle veut mettre ça sur la tête de son grand-père.
Mais les auditeurs vont réagir au 01 53 48 3000. C'est important, évidemment, votre témoignage, ce que vous êtes en train de nous dire là, Leïla. Très important, effectivement. Donc vous, je retiens une chose, c'est qu'il faut parler, échanger au maximum, communiquer.
Honnêtement, moi, je pense qu'il faut communiquer avec les filles et avec les garçons. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Et même en leur en parlant, on n'est même pas à l'abri parce que voilà, ouais. Lola s'est passé sous le nez des parents, vous voyez bien. Ouais. Et il ne faut pas que ce soit tabou, il faut parler, il faut que les enfants se sentent en sécurité pour que s'il arrive quelque chose, ils puissent nous en parler. Mmh. Pas qu'ils aient peur de nous en parler, en fait.
C'est très important, vous avez pris le courage d'en parler. Merci, Leïla, d'être intervenue.
Merci pour vous, à très bientôt. Au revoir.
Ben, restez fidèles et à très bientôt, bien sûr, avec autant de plaisir. Attika, on va accueillir peut-être certainement une autre mère de famille pour parler de l'affaire du meurtre Lola. Attika, bonsoir Attika.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Attika ?
Moi, je suis coordinateur de sécurité incendie, donc ingénieur BTP, voilà, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas coordinateur. Mmh.
Donc, ça se passe bien.
Tout ce qui est le système de sécurité incendie. Oui, bon. Ça se passe bien. Donc,
bon, vous écoute, ma chère, toutes les questions qu'on a soulevées, qu'on a posées, concernant évidemment.
Oui, en fait, oui. Moi, j'ai trois enfants.
Vous avez entendu, Leïla, c'est terrible, hein.
Oui, ça m'a choqué. Et ça me. Je ne sais pas, à réfléchir encore plus. Parce que moi, j'étais toujours contre à raconter aux enfants. Voilà, des gros problèmes comme ça, social. J'aime pas leur remplir la tête avec ça, donc...
Le contraire de Leïla, il faut pas en parler.
Ouais, moi, j'ai le contraire, mais ce qui lui est arrivé, ça m'a donné, je sais pas, à réfléchir. Je veux pas, parce que pour moi, un enfant est un enfant. Voilà, un enfant...
Attendez, Attika. Vous savez quoi ? Oui. Je vais vous garder, parce que on me demande de lancer absolument la pub, la pause. Je vous retrouve dans une poignée de minutes, ça vous va ?
D'accord, ok.
Restez avec moi, Attika. 01 53 48 3000. Je voudrais entendre tout le monde, les pères, les mères, tout le monde, évidemment. Comment en parler à un enfant ? Le meurtre de Lola nous a tous touchés, choqués. Comment vous en parlez à vos enfants? Et puis surtout, est-ce qu'il faut en parler à vos enfants? Et de quelle manière? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
D'accord.
C'est reparti 18h21 sur dans les informés jusqu'à 19h30. Nous sommes ensemble. C'est votre tranche. Pendant 30 minutes, on parle justement de l'affaire du meurtre de Lola. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est comment vous en parlez à vos enfants. Et faut-il mieux protéger nos enfants? Attika a disparu des radars. J'aimerais bien la retrouver, Attika. Elle est là, Attika. Attika, je vous ai retrouvé.
Oui.
Ah, alors je vous écoute, ma chère Attika.
Oui. J'étais en train de dire que oui, je suis donc maman, j'ai 3 enfants,
oui.
Entre 12 ans et 17 ans.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est gênant. Moi, je suis contraire de la personne qui a appelé avant, donc je vais pas.
Oui.
Moi, un enfant est un enfant, sauf si vraiment il pose des questions. Mais c'est vrai que le plus gênant pour moi, parce que j'arrête pas de me poser la question, parce que maman, c'est vrai, c'est une Algérienne. Mmh. Et là. Je me mets dans un état encore pire, peut-être ça c'est un autre sujet, et du coup j'aime pas parler de ça, donc ça me dérange.
Ah, ça vous dérange, vous considérez qu'il faut pas en parler?
Ça me dérange, oui.
Vous êtes prudente, vos enfants ils sont comment? Ils sont grands, ils sont petits, ils ont quel âge?
Le dernier il a 12 ans.
Donc là pour le coup, ça vous posez pas de questions, vous dites pas il a 12 ans. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il fait dans la journée, avec qui il traîne, oui. Comment, où, à quelle heure.
Justement, je lui pose des questions. Dernièrement, chaque fois, je lui dis fais attention si quelqu'un t'appelle, voilà. Mais je ne veux pas entrer dans les détails parce que pour moi, un enfant, c'est un enfant. Je ne veux pas
l'encourager.
Oui. Pas leur vision sur la vie. Et je ne veux pas que mes enfants aient peur de peur de leur famille, de leur grand-père. Moi, je ne veux pas ça, parce que nous, on n'a pas grandi comme ça. Et pour moi, un enfant, comme on dit en arabe, c'est le bala'a. Donc, je veux qu'il reste comme ça et qu'il aime tout le monde. Sauf que oui, de temps en temps, quand il, par exemple, il est en retard, j'essaie de le mettre sous attention. Hein. C'était où? Attention, si quelqu'un se dit, viens avec moi. Voilà. Je me mets avec ce qui se passe dans l'heure actuelle, voilà.
Oui, oui.
Mais je ne veux pas les mettre à l'égard de tout.
Bon, bah, vous savez que ça fera réagir de toute façon, évidemment. C'est le but, c'est l'objet même des informés. Merci Attika d'être intervenue.
Voilà, c'est ça. Mais pour moi, un enfant est un enfant et puis on les laisse vivre à leur façon. C'est dur ce qu'on dit, c'est dur.
C'est très dur, effectivement. Merci Attika. Ouais.
Il n'y a pas de quoi.
Et bon courage à vous, merci et restez fidèles. Vous nous appelez de plaisir, vous. Hein. Vous êtes de plaisir. Hein.
Oui, je suis de plaisir.
Ouais. Eh bien, restez fidèles. Ouais. À bientôt.
Oui, j'écoute. Donc, voilà.
Bon, ben merci en tout cas de votre fidélité. Allez, à bientôt. Nous allons accueillir Farid. Bonjour, Farid.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Farid?
Bah, je suis un chauffeur super poids lourd.
Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien sur la route. En fait, je viens entendre sur la météo de la mort de Lola. Donc, moi, j'écoute.
Vous avez des enfants? Vous êtes père de famille?
Exactement, ouais. Je suis marié. J'ai un enfant qui a 7 ans.
Ouais.
Franchement, la mort de Lola, ça me touche.
Ça nous a tous touchés.
Vraiment, ça me touche. Il n'y a pas que moi, mais tout le monde que ça touche.
Ouais.
On parle de toutes les pays, ça touche.
Oui.
Franchement, comme la dame que vous avez décroché, si on a des enfants bien élevés et ils sont gentils et tout, ils aident des gens, mais regarde, la pauvre Lola, c'est un enfant, 2 ans, ça n'a rien à voir.
Oui.
Ça rentre pas dans la tête. Je pose juste une question. Ça ne m'arrive pas à moi, ça ne m'arrive pas à ma famille.
Oui.
Imagine les parents de Lola, comment ils sont-ils maintenant?
Ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant que ça ne nous touche pas, on est effectivement. Mais quand ça nous touche, là, c'est une autre histoire.
Bien sûr que ça nous touche. Imagine, c'est mon fils qui est en train d'arriver là.
Ouais. Et pourtant, Lola, c'est horrible. Abominable ce qui s'est passé. Vous en parlez avec vos enfants, mon cher Farid?
oh, bien sûr, je lui ai posé la question. Bah, j'ai dit à mon fils, je voulais te parler. Donc aujourd'hui, je rencontre sur les réseaux sociaux. Il y a une dame qui l'a tué un enfant de 2 ans.
Ouais.
Franchement, j'ai vraiment, il est pleuré. Donc là, il a peur de partir à l'école tout seul.
Ah bon?
Bah oui.
Votre fils, il a peur d'aller à l'école tout seul?
Ah non, ouais.
Ah ouais, ça l'a un peu travaillé.
Ouais, c'est un peu de travail dans sa tête.
Ouais.
Et non, vous inquiétez pas, il y a maman qui vous ramène et vous récupère à l'école et tout. Mais là, seulement, le sujet, ça tourne toujours sur le BFM TV, sur les réseaux sociaux. Ça veut donc qu'il toujours, il pose la question, comment ça se passe avec la pauvre Lola.
Ouais.
Mais je n'ai pas dit que quoi.
Rappelez-moi son âge, il a quel âge?
14.
14 ans.
Ouais.
Ouais. Ouais, c'est vrai que 14 ans, c'est dur quand même. Hein. Il se pose beaucoup de questions.
Exactement, c'est 14 ans.
Et comment vous le rassurez? Comment vous lui en parlez? Comment vous le rassurez? Comment vous le confortez?
Je l'ai assuré. Bah, je sais, tant que vous êtes en sécurité, à ton moment, tant que vous êtes dans l'école privée, donc les maîtresses, ils ne vont pas, vraiment te faire de mal. Bah, il faut vraiment poser des pieds. Tu ne parles pas à n'importe qui sur les sujets qui vous intéressent.
Ouais.
Tu ne poses pas des questions, des sujets qui. Qu'est-ce que ça sert pas? Bah, il me dit, ouais, je veux le faire, je veux faire attention et tout le tout, donc voilà quoi.
Ouais.
Ta tête, il fait toujours des trucs, peur toi. À son âge.
Bon. Et vous savez que les psychologues, ils disent que justement, évidemment, quand on aborde ce meurtre sordide de cette adolescente, cette jeune adolescente, ils disent que c'est essentiel que les enfants, justement, expriment leurs émotions. Très important.
Bah, je suis d'accord, mais obligatoire que je le prévenir pour qu'il fasse attention.
Ouais.
Ça veut dire que je fais attention, j'ai un enfant qui est vraiment tranquille, il est gentil. Il aide tout le monde, même à l'ascenseur, et il parle avec tout le monde. Il y a des copains qui viennent chez moi, il parle chez lui, mais là, c'est pour ça, il faut que je le dirige. Voilà, regarde qu'est-ce qu'ils arrivent à la petite Lola. Elle a 2 ans, donc la différence, on a 2 ans,
ouais.
La décapagante trop. Ça veut donc, regarde qu'est-ce qu'il arrive. Peut-être, un jour, ça va s'arriver à vous. Donc, ça m'inquiète pour moi. Ça m'inquiète, vraiment, ça m'inquiète.
Vous en parlez avec votre épouse et ça vous inquiète?
Bah oui, je l'ai dit, bah oui, bien sûr que ça m'inquiète. Attends, ouais. Je travaille ou je surveille ma famille? Je ramène de l'argent pour vivre ma famille ou je surveille ma famille? Je sais pas exactement actuellement qu'est-ce qu'on va faire dans la vie maintenant. Là, moi, je vraiment, ça rentre pas dans la vie.
Je vois que vous êtes nombreux, effectivement, que ce meurtre sordide a touché. En tout cas, voilà, ça vous a permis de revoir, évidemment, comment il faut parler aux enfants et comment mieux protéger vos enfants dans votre quotidien.
Bah exactement, de toute façon, moi, je protège mon fils. J'ai qu'un seul, je le protège. Donc, voilà, je suis avec lui le week-end, je parle avec lui. Des fois, on fait des petites McDo et tout. Ben, je le parle. Si ça arrive quelque chose sur les réseaux sociaux, je le dirai direct. Je ne cache pas. Pour qu'ils savent, la vie ne doit rien du tout. Voilà, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas des trop compter. Mais par contre, la petite Lola, c'est ça qu'est-ce qui me touche dans ma tête, elle est pas née pas 15 ans, elle n'est pas rentrée sur les dealers, sur la route de la drogue, elle est jeune encore, et ça passe des trucs comme ça. Mmh. Donc voilà, aujourd'hui elle est morte à son âge de 2 ans, voilà, ouais. Ça ne rentre pas dans la tête. Je me pose la question, je dis peut-être à les 18 ans, 19 ans, des trucs, mais à les 2 ans, parfois je l'apprends.
Bon, bah effectivement, ouais. Bon, vous êtes très nombreux, merci mon cher Farid et bon courage. Hein. Vous êtes trop nombreux, merci à vous.
Merci beaucoup pour cette mission.
Ouais, merci. Écoutez, vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux. Hein. De plus en plus nombreux et merci infiniment d'abord de votre fidélité. 0153 48 3000, on continue de prendre vos appels. On parle de l'affaire sordide de cette jeune adolescente Lola. Et la question que je pose, c'est comment en parlez-vous à vos enfants et surtout comment mieux protéger les enfants désormais évidemment avec ce meurtre de Lola. Tout de suite, c'est le Quoi de Neuf, c'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque lundi, Maître Franck Serfati. Bonjour mon cher maître.
Bonsoir cher ami.
Comment ça va?
Super, bon. Malgré une conjoncture et une actualité un peu tristounée.
Exactement, et vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, le Quoi de Neuf, justement, le meurtre de Lola, on vous écoute.
Alors, très rapidement, cher ami, effectivement, et j'entends ce monsieur qui a pris la parole avant moi, je ne vais pas aborder ce crime odieux sous l'angle du droit, sous l'angle de la justice. Nous y reviendrons en temps utile. L'enquête ne fait que passer et on est tenu par le secret de l'instruction d'une part, et d'autre part, je n'ai aucune information officielle, puisque ce ne sont pas les journalistes et la Vox Populi qui peut rendre la justice, mais véritablement la cour d'assises et les juridictions, le juge d'instruction de prime abord, et puis ensuite la juridiction de jugement, donc bien évidemment ne pas parler d'une affaire dont on n'a pas les détails. Par contre, et je reviendrai un petit peu...
Parlez bien dans votre combiné, parce qu'on vous entend au loin, mon cher maître. Pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on vous entend un peu au loin. Si vous pouviez pas... Oui, un peu mieux.
Alors, je vous disais que je reviendrai, comme le faisait d'ailleurs l'intervenant avant moi, sur les raisons de ce meurtre horrible. Moi, j'aimerais quand même rappeler que la violence n'est pas nouvelle. Depuis la nuit des temps, depuis la création de l'humanité, il existe des viols, des assassinats, des meurtres, des actes terroristes, etc. En revanche, ce qui peut nous alerter, c'est que depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en France, on assiste effectivement à une recrudescence d'actes de violence inouïe. Pour reprendre le cas de cette jeune Lola, on a un acte de barbarie qui tombe sous le coup de la raison. Alors, est-ce qu'on apprendra dans 6 mois, dans 10 mois, dans 1 an, dans 2 ans, que les personnes mises en cause, et notamment la personne principale qui est visée par l'enquête, n'était pas normale et qu'elle pourrait bénéficier de l'article 122-2 du Code pénal? On reviendra là-dessus lors d'une prochaine émission. Je n'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais revenir en 30 secondes, puisque je crois qu'il me reste 30 ou 40 secondes, sur ce que disait le monsieur avant moi.
Oui.
Je crois que les véritables causes, ça a été dit, relèvent de l'éducation. Tout d'abord, l'éducation de l'école, et je crois que l'institution scolaire a de moins en moins de moyens et a de plus en plus de difficultés à faire passer ces messages qu'on appelait à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, les valeurs citoyennes. Et puis on assiste aussi, c'est ce que disait la personne avant moi, à une défaillance éducative, souvent des parents. Alors on verra bien ce qui a motivé un crime qui n'est pas justifiable. On verra dans 1 an ou 2, au terme de l'affaire judiciaire, au terme de l'instruction criminelle et au terme de la décision qui sera rendue ou pas à voir, et on en reparlera sous l'angle plus juridique. Mais effectivement, et vous avez tout à fait raison d'avoir posé ces problématiques, comment aujourd'hui, dans une société civilisée comme la France, on peut constater des actes aussi barbares qui tombent encore une fois sous le coup de la raison et du bon sens.
Et vous avez raison, effectivement, de l'aborder sous cet angle. Merci infiniment, mon cher maître Franck Serfati.
Merci à vous.
Portez-vous bien.
Merci
et à lundi prochain, sans faute, pour un autre Quoi de Neuf.
À très vite et bonne semaine.
Bonne semaine, 18h34 dans Les Informés. On est ensemble et le standard est à vous et pour vous, consacré évidemment au meurtre de Lola. Mais la question qu'on pose ce soir, vous le savez, c'est comment vous en parler de cette affaire à vos enfants, et puis surtout comment mieux protéger vos enfants. Tiens, direction Toulouse. Toulouse, je vais accueillir Mohamed. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour. Ça va?
Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed?
Je suis platiste.
On vous écoute. Vous êtes père de famille?
Oui, j'ai une petite fille je suis divorcé, donc elle est avec sa maman. Mais j'ai vécu une histoire, ça fait 12 jours maintenant, que l'ancien voisin de mon ex, un jour, il a besoin d'un truc sur Internet, sur son PC, tout ça, il a aidé, mais il a gardé son numéro, son boîte mail. Et les derniers jours, il a envoyé des photos sexuelles, des vidéos sexuelles.
Envoyé à qui?
Au début, à mon ex, après, à ma belle-mère. Et elle a demandé des trucs pour ma petite fille.
C'est quoi ces photos sexuelles?
C'est grave. Elle demande la culotte de ma petite fille, qu'elle va, elle peut l'amener. Elle demande ouais,
ça, à mais ça, mère, cher ami, il faut s'adresser. Faut s'adresser. Mais vous avez vous laissez faire ou est-ce que vous avez saisi?
On a j'ai mis tout en clé USB, on a montré à la police et jusqu'à maintenant la police n'a rien fait. Donc dans ce cas, moi j'ai demandé l'adresse de ce gars. Mon ex belle-mère ne veut pas me donner parce qu'elle le sait que je suis un peu énervé, tout ça, peut-être je fais un bêtis. Et je sais pas, jusqu'à maintenant, je peux. Donne-moi une solution.
Qu'est-ce que. J'ai pas entendu. Jusque-là.
Donne-moi une solution. Parce que.
La solution, je vais vous la dire. Moi, je suis pas avocat. C'est dommage parce qu'on aurait pu garder le maître Franck Cercvati qui était en ligne avec nous. Bon, il est parti. Mais moi, ce que je peux vous dire, avec l'expérience, vous pouvez écrire au procureur de la République. Un courrier recommandé. Avec évidemment, si vous avez des pièces supplémentaires avec vous, c'est-à-dire des photos qui prouvent, si vous avez constitué un dossier, eh ben vous avez le droit d'écrire au procureur qui lui-même va se saisir de cette affaire et là évidemment et il reviendra très vite vers vous. Vous verrez que ça va avancer.
Ok, merci beaucoup. Parce que franchement,
si on parle d'une situation qui concerne les mineurs. Des photos sexuelles que vous me dites là, qui circulent sur Internet,
c'est
des échanges. Et qu'en plus, ça concerne des mineurs, pardonnez-moi, mais là, on est sous le coup, comme l'a dit l'avocat, Maître Cercvati, on tombe sur le coup de la loi. Donc effectivement, vous ne pouvez pas laisser passer ça.
Non, ça c'est sûr, mais c'est pour cela que moi, je n'ai pas envie de contacter ce mec, parce que je sais bien que je veux faire une bêtise, ça c'est sûr.
Non, mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire justice. Vous ne pouvez pas vous faire votre propre justice. Mon cher Mohamed, vous ne pouvez pas faire votre propre justice. On est dans un pays où régit quand même des règles, des lois, etc. C'est pas l'anarchie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est écrivez au procureur, d'accord, avec lettre recommandée, avec des pièces, vous avez constitué un dossier. Vous lui envoyez tout ça. Voilà. Et il va vous répondre. C'est son travail. Il est obligé de vous répondre. Okay.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Mais je ne suis pas avocat. Moi, je vous parle de mon expérience. Merci, mon cher beaucoup. Mohamed.
Allez, au revoir.
18h38, nous allons marquer une pause. Et on se retrouve avec les débatteurs tout de suite. Justement, je vais les saluer. Bonjour à notre syndicaliste et également auteur, le représentant de CGT, Jimmy Dalidou. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, mon cher Nabil. Comment ça va?
Très bien, et vous-même? Bonjour,
Nabil. Vous savez que j'ai un trou de mémoire à Etakash.
Exactement.
Tout de suite, ça me revient, ouais. Vous représentez Renaissance dans le 9-3.
Exactement, en Seine-Saint-Denis.
Tout va bien?
Tout va très bien.
En revenant, tiens, communicant, Mohamed Benjibour, comment ça va?
Ça va bien vous-même, vous m'avez manqué.
Ouais, moi aussi.
Bon.
Tout va bien?
C'est réciproque, ça
il,
va.
Il est venu avec Faisal, bonjour Faisal.
Bonjour.
Un jeune chroniqueur.
Oui.
Surprise, chers amis auditeurs, il va chroniquer sur Benzema et son ballon d'or. Ah, ça j'ai hâte d'écouter, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Il est 18h44, si vous venez de le rejoindre, Les Informés, c'est vous, justement, votre émission, votre magazine jusqu'à 19h30. Beaucoup d'appels, je vais prendre Karima de la Seine-et-Marne et ensuite je vais accueillir mes débatteurs. Karima, bonjour, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Karima?
Je travaille à Disneyland.
J'ai pas entendu.
Je travaille à Disneyland Paris.
Disneyland Paris! Mais oui. Lâchez-nous des places, faites-nous offrir des places sur l'antenne à nos auditeurs.
Pas de souci, il n'y a pas de problème.
Mais oui, je vais vous mettre en relation avec notre direction.
Il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est vrai, comme ça on fait gagner des places ici à nos auditeurs.
Je suis toujours à Clignancourt.
En plus. Vous êtes Seine-et-Marne, voilà. Seine-et-Marne, c'est où, c'est à quelle ville?
Je suis à Cessy-la-Chapelle, je ne suis pas très loin de Meaux, je ne suis pas très loin d'ici.
Bon. Voilà. Karima, vous êtes mère de famille, hein?
Exact, j'ai trois enfants qui sont maintenant.
Alors, comment vous en parlez?
Déjà, je meurs de cette petite-là, ça m'a. C'est, on ne peut pas dire que c'est choquant, c'est effrayant, c'est dégoûtant, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais pour les sujets, pour les gens qui ont parlé avant moi, donc ne rien dire aux enfants, non, moi je ne suis pas d'accord, moi j'ai toujours parlé aux enfants.
Ah oui, c'est Attika qui disait ça, oui.
Ah oui, moi, mes enfants, au contraire, les enfants, il faut leur parler.
Oui.
À notre époque, avec tous les moyens qu'ils ont, les Facebook, les TikTok, les tous les énergies qu'ils ont.
Surtout les réseaux sociaux.
Voilà, les réseaux sociaux, ils voient
Il y a des gosses qui voient, mais à la maison, on leur parle pas. Donc, moi, je préfère, voilà, parler de tout et être casse. Même les petits, quand ils avaient les enfants, par exemple, je leur dis le moindre petit problème, même si ça ne fait pas plaisir ou pas peur que je te frappe ou ton père te gueule dessus,
oui.
Il faut parler.
C'est important de leur parler parce que, oui, Karima, c'est important de leur parler parce que vous savez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a certains psychologues spécialistes qui disaient que les enfants doivent exprimer leurs émotions.
Exactement.
Leurs émotions.
Tout à fait d'accord. Voilà. Moi, mes enfants, c'est pas pour dire, mais j'en ai trois. La plus grande à 25 et plus jeune à 19.
Et vous communiquez beaucoup.
Voilà. Donc, par exemple, le moindre truc, ils font à l'école, ils me racontent tout. J'ai dit bonjour à ce voisin, à l'autre, même pas, j'ai dit bonjour, il n'a pas répondu. Ouais. Ouais, je connais tout le monde par rapport à l'école, j'avais pensé jamais, mais je ne sais plus ça.
Eh bien, merci, Karima.
Il faut parler, franchement, il faut parler parce que peut-être la gamine aussi, elle a peur de ses parents, c'est peut-être.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord.
Peut-être qu'elle ne dit rien, peut-être qu'elle avait peur de son voisin, peut-être.
C'est vrai.
Elle a craigné, peut-être qu'elle ne disait rien à ses parents, elle ne savait rien. La communication, moi, je trouve qu'elle est très, très, très importante.
Bien sûr, avec les enfants, ah oui, hyper importante, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, vous savez.
Voilà. Je ne dis pas qu'on aurait pu éviter le crime, mais on peut éviter d'autres crimes. Maintenant, ce qui est fait, c'est, on va dire, voilà.
Merci, Karima, d'être intervenue. Merci à vous, et on vous recontactera certainement.
Il n'y a pas de souci, vous avez mon numéro.
Avec plaisir, restez fidèles.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, 18h47. Les informés, le face-à-face, chers amis.
Les informés, le face-à-face.
Et je vais accueillir donc Jimmy Dalidou, rebonsoir, le représentant de la CGT, mais également auteur. Comment ça va, Jimmy ?
Ça va pas, donc ça va.
Ça va pas, mais ça va. Voilà. C'est bien ça, je connaissais pas. Ça va pas, mais ça va, ça veut dire quoi ?
Bah, ça va pas.
Il y a le micro qui marche pas, le micro. Attendez, votre micro ne marche pas du tout. Le micro, il marche pas, hein, le micro, hein. Il marche pas du tout le micro. Ouais. Non. Bon, on va essayer de régler. Nabil Aitakash, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va ?
Très bien, on reste positif.
Le micro
positif.
Marche bien là. Absolument, le représentant de Renaissance sur le département du 9-3. Mohamed Benjebour, bonjour, le consultant en communication, comment ça va ? Très bien, tout va bien. Faisal, bonjour, il est venu avec Faisal. Faisal, c'est le fils de Mohamed. Comment ça va, Faisal ?
Bien, et vous ?
Vous lisez une spéciale dédicace pour votre grand-mère. Elle vous écoute, allez-y.
Oui, j'aimerais dire bonjour à mes grands-parents et à toute la famille Benjebour et de la famille Baha à Boufari.
Ouais.
Et surtout à tous les auditeurs de Beurre FM.
Oh là là là, classe Faisal, la classe. Je sais que la mamie, c'est une fidèle auditrice de Beurre FM.
Oui.
Eh bien, on l'embrasse. On vous embrasse, chère mamie. Il faudra qu'un jour on vous offre quelque chose, hein, ça c'est sûr. Allez, avant de démarrer le face-à-face, parce qu'il y a des sujets qui nous attendent, vous savez, notamment, on reviendra, je vous ferai un tour de top sur le meurtre de Lola, finalement, et comment parler à ses enfants. On reviendra sur les motions de censure, on reviendra notamment, vous savez, sur Giorgia Meloni, la toute nouvelle patronne de l'Italie, mais finalement, Marine Le Pen, elle sait ce qu'elle se voit déjà à l'Elysée, on en parlera aussi. Et enfin, le FMI qui, lui, se dit pessimiste de plus en plus. Peut-on parler d'un déclin de l'Europe économique, et puis la guerre en Ukraine, vous savez, cette bombe sale, peut-on s'attendre au pire ? C'est le scénario. Mais pour démarrer, vous savez quoi ? C'est pas sa première d'ailleurs, il en a déjà fait des chroniques. Faisal est venu évidemment avec le ballon d'or en main, parce qu'il a décidé de consacrer évidemment sa petite chronique autour de Karim Benzema. Pourquoi, mon cher Faisal ?
Je voulais faire Karim Benzema parce que c'est un Algérien de cœur. Et il vient de l'Algérie et c'est un pays que j'adore.
Bon, ben on vous écoute. Allez, c'est parti.
Aujourd'hui, à deux lettres à l'honneur, le K et le B. KB comme kilobit, une unité de données. KB comme Kabylie, une région d'Algérie chère à notre héros de la semaine, notre héros de l'année, même pour les fans de football, notre héros de la décennie. KB peut aussi avoir plusieurs différentes définitions. Mais aujourd'hui, on va parler de KB comme Karim Benzema, l'Algérien, le Kabyle, le Français, le citoyen du monde. Pas de surprise pour le vainqueur du Ballon d'Or, Benzema a gagné cette prestigieuse distinction lundi dernier au Théâtre du Châtelet, devant des millions de téléspectateurs du monde entier, dont je faisais partie. Seuls 4 pays ne l'ont pas mis en première place, y compris l'Égypte. Ah, nos frères égyptiens, ils avaient leurs joueurs, mais quelque chose me dit qu'ils n'auraient pas voté pour l'Algérien Karim Benzema. Et le Sénégal qui a aussi voté pour leur propre athlète, la Slovénie et les Pays-Bas. Cela n'a rien changé car il a eu le deuxième plus grand écart entre la première et deuxième place dans l'histoire du Ballon d'Or après la victoire de Ronaldo en 2016. C'est le cinquième Français à l'avoir remporté après Zidane en 98, il y a 24 ans. Je n'étais pas né. Vous non plus n'étiez pas né, mon cher Adil.
Moi aussi, j'étais pas né.
Je plaisante. Mais on peut se dire que la victoire de Karim Benzema, c'est celle du travail, de la discipline, de l'esprit positif et concentré du joueur du Real de Madrid. C'est certain, la phrase qui a guidé le joueur, c'est « on ne lâche rien », car il n'a rien lâché.
Ça, on connaît ici. Hein.
À un âge où la plupart des joueurs sont morts, je veux dire symboliquement, ils ne jouent plus au foot ou ont un niveau très faible. Karim Benzema a fait la meilleure année de sa carrière. Alors, cher auditeur, ne lâchez rien. Si vous êtes attaqué, continuez. Si vous êtes critiqué, continuez. Si vous n'êtes pas sélectionné, continuez. Avec toujours l'objectif en vue. Du moment que vous vous amusez et que vous travaillez dur, rien ne peut vous arrêter pour atteindre votre cible. C'est une victoire pour le football, pour le travail.
Bravo, on fait ça, on peut l'applaudir. Hein.
Bravo, très joli.
Il a compris, il a la plume, il a le ton, il a déjà compris ce que ça voulait dire être journaliste. Tu veux devenir journaliste plus tard?
J'ai une idée en tête.
Ça travaille. Hein.
Oui.
Ne lâchez rien, ça c'est les informés, ça.
Oui, c'est grâce à vous que j'ai eu cette idée.
Bravo, bravo. Il mérite un double applaudissement hein, pour être au sein. Bravo Faisal, bravo la mamie, elle peut être fière, les grands-parents. Si vous écoutez, il peut être fier, hein, il peut être fier de vous. Vraiment. Bravo Faisal, on est fier de toi.
Merci.
Ne lâche rien, j'ai envie de te dire.
Okay.
Ne lâche rien. C'est parti tout de suite, vous savez quoi, le face-à-face, messieurs. Tout de suite, un petit tour de table. Jimmy, Dalidou, Nabil et Takash, Mohamed Benjebour, justement, concernant le meurtre de Lola, ce meurtre sordide. Qu'est-ce que vous retenez? Mais surtout, vous savez, la série d'auditeurs, beaucoup d'appels ce soir, notamment, réaction concernant, doit-on en parler à nos enfants? Mais surtout, comment mieux protéger les enfants? Jimmy Dalidou.
Ouais, d'abord, alors, une petite pensée surtout aux parents. Situation difficile pour eux, vraiment. Je pense que là, actuellement, on est tous devenus les parents de Lola, en fait. Hein. On est tous devenus les parents de Lola et on est tous les parents des
enfants.
C'est
bien dit, ça. Les parents de Lola.
Qui sont les victimes de ce genre de... Alors, deux choses. Malheureusement, l'être humain est comme il est. On sait qu'il a une part obscure en lui. Hein. Et malheureusement, des fois, cette part obscure prend le dessus. Et malheureusement, ça arrive. Malheureusement, ça reste. Comme disait tout à l'heure l'intervenant, ça a toujours existé, malheureusement. Et des fois, le monde, il est pas si, il est assez obscur. Ensuite, par rapport aux enfants, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut en parler en toute franchise avec les enfants, en utilisant des bons mots. Je pense pas que ce soit une bonne idée de leur faire croire qu'ils grandiraient dans un monde tout rose où
le monde des bisounours,
où il n'y a pas de risque. Hein. Vous voyez le monde qu'ils voient dans les dessins animés. En fait, il faut leur faire comprendre que ce monde,
ça dépend quel dessin animé vous regardez. Hein.
Des dessins animés qui sont super
violents.
C'est ce que j'explique à mes enfants, en fait. Ouais. Ce monde, il y a des risques, il y a des dangers, il y a des gens qui sont pas, ils sont adultes, mais qui sont pas forcément responsables. Et là, il faut leur expliquer. Et surtout, il faut prendre en considération leurs émotions, parce que ce sont aussi des êtres émotionnels comme les adultes. Peut vite se faire psychologiquement, il peut y avoir des conséquences.
Exactement. Nabil et Takash.
Alors, je m'associe complètement à ce que vient de dire Jimmy. Je vais pas revenir là-dessus. Je pense que, comme tu dis, on est tous les parents de Lola. Il faut en parler aux enfants, bien sûr, avec intelligence, sans les traumatiser non plus. C'est quand même, faut pas leur laisser de traces. Il faut leur parler avec intelligence. Moi, ce que je retiens, et Jimmy le disait aussi, c'est les parents sont aussi des êtres d'émotion. Et je trouve assez, ce que je retiens, c'est l'irresponsabilité d'une certaine classe politique qui récupère quand même cet événement et qui traumatise la société encore plus, et donc qui met une charge mentale aussi au niveau des parents et au niveau de la société. Donc c'est pas une bonne chose. Donc moi je pense qu'il faut de l'unité, de l'intelligence et de la raison.
Mohamed Benjebour, avant de marquer une pause.
Je crois qu'il y a bien un sujet,
le micro n'est pas allumé. Le micro n'est pas allumé. Allez-y. Si, c'est bon, allez-y.
Je crois que s'il y a bien un sujet où on peut être d'accord, c'est là-dessus. C'est quand même sur. On pense aux parents, on pense aux familles. On a tous des enfants, ou beaucoup d'entre nous ont des enfants, donc c'est quelque chose qui est terrible. Évidemment, on ne comprendra jamais la peine que les parents ont eue tant que ça ne nous est pas arrivé, et on espère que ça ne nous arrivera pas et que ça arrivera au moins de personnes possibles. Je pense aussi, comme nos deux amis, qu'il est important d'en parler aux enfants sans les traumatiser. Comme ça a été dit, et faire attention. Et je trouvais en effet irresponsable que certains partis instrumentalisent cette affaire alors même que le corps de Lola n'était même pas enterré.
On parlera des messieurs de censure. Vous savez, débat cet après-midi, justement. Est-ce qu'on peut considérer que l'Assemblée nationale, il y a une fragmentation? 18h56, on marque une pause. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h56, Les Informés, c'est avec Mohamed Benjibour, Les Informés avec Nabil Etakash, et enfin Les Informés, c'est aussi avec Jimmy Dalidou. Nabil Etakash, cet après-midi, au sein de l'hémicycle, l'Assemblée nationale, les motions de censure. Alors, après, évidemment, que le 49-3 ait été déclenché par la Première ministre, les débats ont eu lieu cet après-midi concernant la motion de censure, à la fois par la NUPES, mais également aussi par le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a des chances que ça aboutisse, justement, cette motion de censure, Nabil Etakash? Alors, vous qui représentez Renaissance, justement, ça panique ou pas?
Non, ça panique pas du tout. Je viens de recevoir les résultats, donc 239 votes favorables, donc la motion de censure, elle n'est pas adoptée. C'est pas du tout une surprise, parce qu'on le savait. C'est vraiment une orchestration encore politique des oppositions, ce qui est très très dommage. Je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. 239 votes favorables, ça veut dire que c'est la NUPES et le Rassemblement National. Il y a un moment, il faudra dire ce que ces deux...
Donc c'est rejeté.
Donc c'est rejeté. Donc elle est
votée. On était à quelques voix quand même pour que ça passe, hein.
Elle est... Oui, non, il faut 289 voix pour voilà, il en faut encore beaucoup. Mais ce qui veut dire qu'en fait, les oppositions pensent le RN et la NUPES pensent qu'ils sont la majorité, en fait. Il y a une majorité, c'est la majorité présidentielle, elle présente un budget.
Majorité relative.
Dans un cadre relatif, bien évidemment, ça on le sait, mais elle reste quand même une majorité pour agir et pour voter un budget pour la France. Elle avait aucune chance d'aboutir, ça on le savait, et il y a pas de doute là-dessus. J'ai regardé les débats avant de vous rejoindre, et ouais, complètement. Enfin, moi je
sauf que l'Assemblée nationale, maintenant on parle de fragmentation.
De fragmentation, je ne sais pas si elle est vraiment fragmentée. Les Français ont voulu une assemblée plus représentative des forces politiques dans notre pays. Voilà, ce que je retiens quand même de cet épisode encore, faut quand même rappeler aussi aux auditeurs que 49.3, c'est l'article 49, paragraphe 3 de la Constitution.
C'est ça.
La Constitution, c'est notre loi fondamentale. Donc, c'est pas un passage en force. Il y a eu des débats. On a été jusqu'au bout de ce qui était possible. Mais quand vous déposez 3000 amendements, il y a un moment où vous avez un temps législatif qui est accordé à un projet de loi, en l'occurrence celui du budget, et qu'on peut pas débattre des heures et des heures, alors que les oppositions ont dit dès le départ qu'ils ne voteraient pas. Donc c'est une mascarade.
Parlons-en, Jimmy Dalidou.
Bah, y a deux mots qui ressortent là dans ce que vous dites. J'ai entendu le mot rejeté.
Vous parlez de Nabil.
Ce que disait Nabil, rejeté, fragmenté. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le gouvernement qui est rejeté par le peuple de France. Et pourquoi? Parce qu'il est fragmenté dans son existence par une misère sociale qui s'aggrave. Donc, indépendamment de ce méli-mélo parlementariste à deux balles et fumeux, c'est tout le gouvernement les parlementaires aussi, qui se présentent comme une opposition acceptable, une opposition contrôlée par le gouvernement. Et cette motion de censure, vous savez à quoi ça me fait penser?
Dites-nous.
Ça me fait penser un petit peu à un enfant qui est devant ses parents, qui se fait engueuler, voilà, il se dispute. Et vous avez l'enfant, tu sais, vous voyez, il fait son petit caprice, il n'est pas content, il crie un petit peu. Mais à la fin, il aime toujours ses parents, en fait. Mmh. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette motion de censure, en fait. Ça gigote, ça gueule un petit peu afin d'assumer son rôle. D'assumer son rôle d'opposition acceptable. Il faut quand même être un petit peu dans l'opposition, hein. Quand on touche 10 000 euros par mois, il faut quand même faire un petit peu son boulot. Mais au final, c'est la même politique qui est mise en application. C'est la politique de la classe des plus riches, de la classe du capital financier, qui se gave toujours plus de fric, alors que dans le même temps, la majorité des Français sont toujours en galère Et je
sais que ça fait réagir.
Je vous avant de vous donner la parole. Toujours pas augmenter alors, les salaires.
J'ai vu. Il va vous répondre Nabil et Takash. Mohamed Benjebour, on voudrait vous entendre.
Non, mais d'abord, la majorité est représentée ici par Nabil a beau jeu de nous présenter le 49-3 comme quelque chose de normal, etc. C'est jamais très glorieux.
Vous êtes deux contre lui.
Ça a été. Non,
mais il est armé, ça va.
Non, parce que je vais mesurer mes propos, mais c'est vrai que c'est jamais très glorieux. Alors, quand on est obligé de passer par le 49-3, on nous explique que c'est normal et que ça fait partie de la Constitution. Et c'est vrai. Mais pendant longtemps, le 49-3 n'était pas c'était pas un crédit apporté au tableau des partis qui gouvernaient. Non, c'est vrai que Nabil a raison. Notre assemblée, elle est beaucoup plus représentative des tendances du pays. Simplement, il n'y a pas de compromis en vue. Il y a des compromis souvent associés à des compromissions parce que chacun est tendu et pense campe sur ses positions. Ils essayent d'assurer un minimum. Sauf que à force d'assurer, les partis risquent de voir leur audience se fissurer, se réduire à peau de chagrin. Ils n'auront plus que les yeux pour pleurer. Moi, je trouve un peu dommage. Je trouve normal que l'opposition joue son rôle, contrairement à ce que dit Nabil. C'est normal. L'Assemblée nationale est une chambre d'écho, comme tu l'as dit, très représentative de la population française, et elle doit être à l'image de ce que le peuple, comme le disait Jimmy.
Et la motion de censure, c'est pense, l'arme d'excellence de toute
pense,
façon. De l'opposition.
Ce qui est un peu dommage dans tout ça, c'est qu'en effet, on savait que c'était voué à l'échec. Hein. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'LR est une opposition qui ne s'oppose pas vraiment, comme l'a dit Louis Bayard de LFI. Pour une fois, je vais citer LFI. À leur crédit, ils voulaient pas ajouter une crise institutionnelle et politique à la crise économique et sociale qu'on vit. Mais il n'empêche que si le gouvernement se retrouve trop souvent à procéder à ce genre de 49-3 et à ce genre de démarche, ça dit quand même quelque chose de l'état de santé.
Attendez, il y a Nabil qui a réclamé la parole. Il voudrait vous répondre et ensuite Jimmy vous répondre.
Je vais essayer de faire une réponse aux deux intervenants. Je n'ai pas dit que c'était une procédure normale, c'est une procédure exceptionnelle. Voilà, quand vous arrivez à une impasse et qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut quand même pouvoir
avoir. L'impasse, c'est que le président n'est pas légitime, c'est ça l'impasse.
Non, il a été élu.
Il y a une majorité relative
qui est élue. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus toutes les semaines quand même. Il faut accepter que le président de la République a été réélu, il faut accepter qu'il y a une majorité.
Qui sont pas même pas inscrits sur la liste.
D'accord.
Il est passé avec 20% des voix.
Il a gagné, Jimmy. C'est le président.
Ça s'appelle la démocratie. Mais vous avez un problème avec la démocratie. Vous avez un problème avec l'électorat. Vous avez un problème avec la démocratie.
Des rouages électoraux.
J'ai rappelé ce qu'était que la Constitution et vous avez osé parler de ça comme quelque chose de parlementariste fumeux. On a la chance d'avoir une constitution dans notre pays.
Chacun son tour, chacun son tour, s'il vous plaît. Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
On a la chance d'avoir une constitution dans notre pays qui fait que nous sommes dans un état de droit. Vous avez un problème avec ça, et voilà. Maintenant, pour dire ce que ce budget fait, vous dites que c'est un budget pour le capitalisme, etc. Enfin, j'ai encore du mal à comprendre ce que vous racontez. Mais non, ce budget, c'est quoi? C'est revaloriser les salaires des professeurs pour que plus aucun professeur qui commence soit à moins de 2000 euros par mois. C'est aussi 4000 AESH dans les écoles. On manque d'AESH. Les enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est...
C'est la taxe sur les surprofits via un amendement qui a été rejeté.
Non, mais ça, on en a déjà parlé la semaine dernière.
Non, restons sur le débat.
Ça fait partie du débat.
Oui, bien sûr, mais...
Donc, c'est 8% Jimmy. De plus sur les crédits de la justice. C'est 15 000...
Jimmy, dans l'ordre.
Alors, je voudrais aller jusqu'au bout, pardon.
Et ensuite, on va mettre Benzibourg.
Parce qu'il dénature la réalité de ce qu'est ce budget. Nous, on a besoin de... C'est une situation exceptionnelle. La France a besoin d'un budget. C'est la part... Pour fonctionner, tout simplement. Le 49-3 vient faire passer un budget qui sont, donc encore une fois, le budget de la France. Donc, 8% de plus pour la justice, vous êtes contre ça. Donc 15 000 places de prison, quand on voit ce qui se passe, l'actualité, on a besoin d'avoir une politique aussi sécuritaire. C'est important. Donc, vous êtes contre tout ça. Maintenant, le dernier point. Vous parlez des surprofits. Mais on a obtenu mieux, dites la vérité aux gens. L'amendement qui a été présenté par la NUPES, c'est 200 millions dans les... Non, on a obtenu beaucoup mieux au niveau européen.
Ils vont certainement comprendre.
Non, Non. On va c'est 200 millions. C'est 200 millions parce dans les finances de l'État. On a obtenu 7 milliards. Mois, 7 milliards en fait. Au niveau européen. Je préfère obtenir 7 milliards au niveau européen sur les profits qui ont été réalisés par les entreprises du secteur de l'énergie.
Alors, il va vous répondre. Il vous répond. Jimmy Dalidou. Et on passe au sujet suivant, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un autre sujet qui nous préoccupe dans l'Hexagone. C'est la montée des extrêmes.
Ouais.
Et la montée notamment de l'extrême droite.
Ouais, juste pour dire que le 49-3, c'est quand même pas un élément uniquement macroniste. Hein, parce qu'il a été utilisé à travers l'histoire depuis le 4 octobre 1958. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été utilisé 89 fois, 33 fois par la droite et 56 fois par la gauche. Celui qui a battu tous les records, c'est Michel Rocard, qui l'a utilisé à 28 reprises. Donc ça démontre bien. Ça démontre bien qu'en fait, le 49-3 est au service d'une classe. Le gouvernement est l'organe de domination et d'oppression d'une classe par une autre. Et ça démontre bien que, quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, ils utilisent le 49-3 quand il faut faire passer leur outil de domination économique et sociale.
Mohamed.
Et ils le mettent en exergue.
Il faut qu'on avance, messieurs. Il faut qu'on avance. Mohamed Benjibou, et ensuite après on parle, s'il vous plaît, de la...
Personnellement, je trouve bien que le gouvernement découvre qu'on manque de place, qu'on manque de soutien scolaire. Je trouve bien que le gouvernement découvre qu'on manque de place de prison. Je trouve bien que le gouvernement découvre qu'on manque de professeurs. Je trouve bien que le gouvernement découvre que les professeurs sont mal payés. Il faudrait qu'Emmanuel Macron s'explique avec Macron Emmanuel, qui est président depuis le 2017.
Voilà. Ah, d'accord.
Oui, mais quand on hérite encore une fois d'une situation qui enfin, ça fait quand même 20-30 ans. On résout pas tout en 5 ans. Donc voilà, c'est pour ça que nous on a souhaité la réélection d'Emmanuel Macron. C'est pour pouvoir poursuivre aller vers tout ce que
ça
vous
fait
dites.
Plus de 5 ans qu'il est au pouvoir. Il était au ministère de l'économie avant. Donc ça fait un petit moment qu'il y est dans les rouages du pouvoir.
Il est aux manettes.
S'il vous plaît. Je fais dégainer, moi, mon 49-3. Il est là. Regardez, écoutez-le.
49-3.
Voilà, 49-3. Je sais pas, on ne l'entend pas. Il est en panne, le Knot 49-3. Il est en panne. Il est en panne, le pauvre. Il est en panne, mais oui. Ah, voilà. Meloni Giorgia. La nouvelle patronne de l'Italie, justement. Vous savez quoi? Ça donne des idées. Et certains se voient déjà à l'Elysée. Vous savez à qui je pense? À Marine Le Pen. Justement, parlons-en. Cette montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite, est-ce que un jour, évidemment, la prochaine, 2027, est-ce qu'on peut se retrouver avec Marine Le Pen à l'Elysée? Certains, évidemment, ont ouvert la voie. Est-ce qu'on peut considérer que l'Italie a ouvert la voie? Mohamed Benjibou.
À force de dire qu'elle est limitée dans son ascension par le plafond de verre, et à force de se casser le nez dessus, elle va finir par le briser, ce plafond de verre. Je crois que c'est la responsabilité de tous les politiques, et en particulier de François Hollande, mais aussi du président Macron, de l'avoir positionné un peu comme opposante principale. On joue avec le feu, parce qu'ils sont convaincus, d'ailleurs, tous ces politiques, qu'un duel contre elle en second tour leur garantit une victoire. Sauf que je pense qu'un jour, on va se réveiller, on va avoir très très mal. Le président a été élu, alors même qu'il rassemblait sur son nom au premier tour moins de 10 millions de voix. Si on additionnait Le Pen et Zemmour, on était à beaucoup plus de 10 millions de voix. C'est la démocratie, comme le disait Nabil, et c'est très bien qu'il ait été élu et il n'y a pas eu de vol de l'élection. Faut arrêter de dire des choses comme ça. Mais je crains que si on n'arrive pas à redresser la barre de l'abstention, que les partis politiques commencent à être un peu sérieux et à respecter la population et pas par des petites phrases donner des leçons et à être à l'écoute de la population, je pense qu'on se portera mieux. Et quand bien même, cauchemar, quand bien même on se réveillerait un matin avec Marine Le Pen présidente, ce que je répète est tout à fait possible. Faut arrêter de dire que c'est impossible.
Ah, c'est possible.
Ben, c'est tout à fait possible, évidemment. Je vous dis qu'à force de dire qu'elle sera jamais élue, on va un jour se retrouver avec elle. Et puis il y a l'effet cravate qui pendouille, l'effet des diabolisations, etc. etc. Et puis travail. Et puis à une époque où même le couple Klarsfeld, que j'admire au plus haut point, accepte d'être fait citoyen d'honneur par le maire Rassemblée nationale de Perpignan, là on se dit que tout est possible. Là je tombe de ma chaise. Donc je voulais simplement terminer par dire que même si elle était élue et même si on se réveillait avec après une nuit de cauchemar, elle serait de toute façon, elle aurait des marges réduites comme Mélanie aujourd'hui, qui donne quand même des gages à Bruxelles et heureusement, qui donne des gages à ses partenaires, qui va voir Emmanuel Macron, notre président, pour commencer.
C'est l'inverse, c'est Emmanuel Macron qui rencontre justement.
Oui, enfin c'est le premier chef d'État étranger européen qu'elle va voir après avoir échangé avec les autorités de Bruxelles. Donc je pense que sa marge de manœuvre serait de toute façon limitée, mais elle peut évidemment Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Elle peut gagner, mais c'est parce qu'on a joué aussi avec le feu. Et quand on avait là, j'ai une expérience personnelle des conseillers de Hollande qui, au début de son mandat, nous expliquait que on va maintenir bien haut Marine Le Pen, comme ça, on est sûr que François Hollande sera réélu. Ça me fait doucement rigoler, évidemment.
Alors, faisons un tour de table. Justement, la poussée des extrêmes, notamment de l'extrême droite. Nabila Itakache.
Alors, la poussée des extrêmes droites, j'ai l'impression qu'on fait abstraction du monde dans lequel on vit.
Mais surtout, est-ce que les différentes... les formations politiques, est-ce qu'ils favorisent pas justement le terrain?
Non. C'est un phénomène qui est mondial. C'est un phénomène qui est mondial. On peut pas dire que nous, on a essayé de, enfin, on a forcé la montée de l'extrême droite en France. C'est quelque chose de mondial. On l'a vu aux États, ça a commencé aux États-Unis. Enfin, je sais pas si on peut dire que Trump est d'extrême droite, mais voilà, cette droite nationale et qui est arrivée
patriotique, souverainiste,
anti-européenne sur notre continent, qui est arrivée en effet en Italie. C'est possible en France.
Regardez nos pays voisins, l'Espagne.
Notre objectif.
Il y a une poussée, hein.
Elle est européenne, elle est mondiale. Elle est mondiale, il y a une vraie crise, on le sait, et elle n'est pas instrumentalisée en France. Nous, on ne l'instrumentalise pas. Ça ne nous amuse pas de nous retrouver en face de Marine Le Pen.
Pardon Nabil, mettre dos à dos, comme certains de vos collègues le font, la NUPES et le Front National, pour moi, c'est dédiaboliser le Front National.
Ils votent ensemble.
C'est les mettre au même niveau.
Ils votent ensemble aujourd'hui.
Mais sur
ils s'applaudissent mutuellement des deux côtés de l'hémicycle.
Et je ne suis pas NUPES. Hein.
Ah oui, mais vous savez, il y a un moment, il faut que la NUPES aussi prenne sa responsabilité.
Une carotte et une pomme ne font pas deux carottes.
T'as pas compris quel est le.
Jimmy Dalidou, alors, vous dites quoi, vous?
D'une manière.
Quand on voit l'Italie, on voit la montée aussi. Vous savez, de en Espagne, vous avez suivi en Espagne.
Et comment c'est arrivé en Italie? Rappelez-vous que c'est en Italie.
Et bien, comme là, en ce moment, en Espagne.
Ça a commencé à l'extrême droite.
D'une manière générale,
Jimmy Dalidou.
Effectivement, un véritable torrent de boue réactionnaire qui se déverse sur la totalité des peuples d'Europe. Et M. Macron, roi des banquiers, va serrer la main à une fasciste. Ça, c'est pathétique. Maintenant, d'où vient le fascisme? Il faut se poser la question d'où vient le fascisme. Le fascisme, il est réactivé pour deux choses. Lorsqu'il y a effondrement économique et lorsqu'il y a danger insurrectionnel. Et c'est clairement les conditions dans lesquelles on s'articule actuellement. Mmh. Et c'est quoi le lien avec le RN, Zemmour, etc.
Rassure-moi, Jimmy, tu le souhaites pas.
Comment ?
Tu le souhaites pas, l'insurrection.
Non,
vous le souhaitez pas.
Parce que l'extrême gauche disait que. Souhaite,
Vous dites que le
Mélenchon souhaite
attendez, vous parlez de constitution. Il y avait un article 35 dans la constitution française. C'est quoi l'article 35 ? L'insurrection, le plus sacré des devoirs. Donc on ne changeait pas les articles de la constitution selon ce qui l'arrange. Donc moi, je choisis l'article 35. Qui valide l'approche insurrectionnelle pour le peuple français. Bref, le fascisme, c'est le chien de garde que le pouvoir va utiliser pour effondrement économique et lorsqu'il y a un danger insurrectionnel. Pourquoi le danger, le Rassemblement National et Zemmour sont aussi un danger?
Alors pourquoi?
Parce qu'en fait, il faut bien différencier le social-fascisme du fascisme. Le social-fascisme, c'est la porte d'entrée subjective du fascisme. C'est-à-dire qu'on prépare les esprits à l'arrivée du fascisme. Mmh. Et donc, le RN et Zemmour, c'est une tentative de réactivation du fascisme en France. C'est ça. Qu'en fait, le fascisme, à partir du moment où il est utilisé lorsqu'il y a effondrement économique ou danger insurrectionnel, vous avez compris que lorsque vous intercalez cette réalité dans un contexte géopolitique mondial qui démontre que la France et l'Europe se cassent la gueule et que l'Est progresse, eh bien le pouvoir en place a besoin du fascisme, que ce soit en France.
C'est de la théorie du complot.
En Italie.
Pourquoi vous dites que c'est de la théorie du complot?
C'est de la théorie du complot. Déjà, vous citez l'article 35 de la Constitution. Non, pas de la Constitution actuelle. C'est pendant la Révolution française, là, ce que vous citez. Vous pouvez pas dire que c'est toujours d'actualité.
Le numéro d'article a peut-être changé, mais
il y a 200 ans qui sont passés entre temps. Il y a 250 ans qui sont passés entre temps. Maintenant,
l'insurrection est le plus sacré des devoirs. C'est validé.
Ce qu'on a toujours noté dans l'histoire, c'est que dans des moments de crise économique, il y a des replis identitaires qui se font, il y a des replis je dis pas que c'est normal. Malheureusement, on l'a vu dans l'histoire. Dites pas que c'est le pouvoir en place qui utilise le fascisme pour pouvoir dominer les gens. Du complot.
Tu t'en souviens pas?
C'est du complot.
Tu veux qu'on reparle de la composition sociale du parti?
Les gens
italien,
souffrent. Les gens
Benito
souffrent.
Mussolini et
les gens souffrent vraiment. Ils méritent mieux.
Sociale
les gens souffrent. Ils méritent mieux que de la théorie du complot.
Tu veux combien sur les différentes sources de financement? non.
S'il vous plaît, Mohamed Benjebour.
Je sais pas, entre le tout va bien de Nabil et l'extrême.
J'ai dit que les gens souffraient.
Et l'exagération, franchement, Jimmy, de dire que Macron ou le gouvernement actuel est en train de manipuler tout ça pour que le fascisme passe.
Non, je crois pas.
Il y a un juste milieu qui est la maladresse.
Ce que je dis, c'est que quand t'as un parti comme Fratelli d'Italia qui dit que Mussolini c'est un héros et que t'as passé ton temps, Macron, il a quand même aidé la voix. Et il a dit, je cite, il a dit qu'il voulait travailler en dialoguant et avec dialogue et ambition.
Avec les Italiens.
Dans le même temps, les manifestants en France et lors des Gilets jaunes, la seule chose qu'il a dit.
Macron, c'est un pragmatique.
La seule chose qu'il a fait, c'est envoyer des LBD.
L'Italie, c'est l'Europe, non ?
Non.
Macron, il a fait une erreur de s'afficher avec De Villiers.
Pendant qu'il affirme devant un parti fasciste qui veut dialoguer et qui veut travailler avec ambition, il a envoyé des LBD, des gaz lacrymo aux manifestants, que ce soit des Gilets jaunes, que ce soit les manifestants.
On mélange tout, on mélange tout.
Qui demande une augmentation des salaires.
Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. 19h17 justement, et on se retrouve. Non, c'est parce que je dois lancer la pub. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous justement. Nous parlerons des deux sujets, le FMI qui s'inquiète concernant l'économie, et puis là, l'Ukraine si on a un peu de temps. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
19h24, dernière ligne droite, justement, les informés, c'est avec Jimmy Dalidou. Débat très intéressant. Les informés, c'est avec Nabil Ait Takash. Et enfin, les informés, c'est avec Mohamed Benjebour. Messieurs, alors, parlons, vous savez quoi, du FMI qui s'inquiète, lui, pour le coup, et bien tout simplement, d'une économie qui est en train de s'effondrer. Elle est pessimiste, elle l'affiche. Pour l'économie mondiale. Alors, le FMI se dit que les perspectives sont plutôt sombres et incertaines. Peut-on s'inquiéter, Nabil Ait Takash ? Est-ce qu'on est en train de nous prévenir, nous sensibiliser pour une flambée, j'en sais rien moi, inflammationniste par exemple ?
Alors ouais, le FMI se base sur la situation actuelle pour dire qu'en effet, il y a un risque de récession en Europe. Encore sous le choc de la pandémie du Covid. La pandémie du Covid, la guerre aujourd'hui, la hausse des prix de l'énergie. Enfin, tout ça, c'est créer de l'instabilité. Alors, ce que j'ai retenu quand même, c'est que en France, on n'est pas sur la récession. On fait partie des pays où on a encore un peu de croissance. Elle est estimée, le FMI estime qu'on sera à 0,7% quand l'Allemagne, elle, qui est plus dépendante de l'énergie russe, sera, elle, en récession. Voilà, donc ça, c'est nous, on sera encore avec un petit peu de croissance. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose. Mais je voudrais faire le lien avec le sujet précédent sur Mélanie. Et sur ce qui s'est passé au Royaume-Uni aussi. Quand vous avez des politiques qui sont irresponsables, ils peuvent plonger leur pays dans la crise dans laquelle, par exemple, est plongé le Royaume-Uni, qui est le pays sur lequel le FMI...
Dans une grave crise économique.
C'est une très très grave crise économique. Pourquoi ? Parce que des responsables politiques qui sont complètement irresponsables dans leur décision, qui pensent que toutes les dépenses qu'ils avaient envie de mettre en œuvre pouvaient être financées alors qu'elles l'étaient pas, les marchés réagissent et voilà.
C'est pas que lié à l'extrême droite, Nabil, c'est aussi lié aux conséquences du Brexit.
Je parle de la responsabilité.
Parce que vous parlez du Royaume-Uni.
Ils sont sortis.
Vous savez que la dépêche est tombée.
Le nouveau Premier ministre.
Absolument. Rishi Sunak, anglais, d'origine indienne. C'est une première dans l'histoire, désigné Premier ministre britannique. C'est tombé il y a quelques minutes. Mohamed Benjebour, concernant le FMI et puis l'inflation et puis l'économie, est-ce que...
On n'est pas étonné, c'est la crise persistante de la pandémie. On va avoir effectivement une crise économique qui va être au moins aussi importante, voire plus ce qui a été provoqué par la crise Covid. Mmh. On est sur les problèmes de l'énergie, évidemment, les conséquences de la guerre en Ukraine, etc.
Et de l'inflation.
La hausse des taux d'intérêt. Et on a quelque chose qui va pas nous aider, c'est le ralentissement de la Chine. On n'en parle pas assez. Mais c'est la Chine va risque de provoquer et d'entraîner tout le monde dans une chute encore plus grave que ce qui est prévu par le FMI, parce que la Chine a pratiqué le zéro Covid, a pas forcément, moi je tiens à saluer pour le coup, je vais énerver Jimmy, mais le travail qui a été fait par le gouvernement Macron sur le quoi qu'il en coûte, et tout le travail qui a été fait pendant le Covid, on peut dire que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on résiste mieux, même si on aurait voulu que des grandes compagnies comme Total, etc., et les grandes compagnies qui gagnent beaucoup plus d'argent qu'avant le Covid, parce qu'il y en a, il y en a plein, et qui font beaucoup plus de profits grâce presque à la crise. En tout cas, la crise, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Pour information, on vient de terminer la foire d'art contemporain Paris Plus, la Art Basel, ce week-end. Il y a jamais eu autant de ventes depuis de nombreuses années. Voilà.
Ah oui.
C'était au Grand Palais Éphémère.
Il y avait jamais eu autant de ventes.
Il y a jamais eu autant de ventes. Les œuvres d'art se sont envolées en termes de prix moyens, en termes d'œuvres d'art vendues. Bah, donc c'est pas la crise pour tout le monde.
Non, c'est des placements.
Alors faut placer ou alors faut qu'on fasse de la peinture, Adil, toi et moi.
Ça s'appelle du placement.
Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la crise pour tout le monde et que il serait bien que les frais ou le coût de la crise soient mieux partagés que ça l'a été jusqu'à maintenant.
Jimmy Dalidou, le temps file, il est 19h28. Oui. On n'aura même pas le temps de parler de l'Ukraine.
Alors effectivement, on va rentrer en récession. Bon, la crise s'était pas arrêtée en fait. La crise des subprimes en fait avait commencé avec la crise des subprimes et s'était pas arrêtée. Le problème qui se pose, c'est que tu l'as dit, par contre je suis d'accord, c'est qu'effectivement en France, il y a une baisse de la production inévitable. Et le problème qui se pose, c'est que d'une manière générale, on crée de la valeur, mais la somme totale de la valeur qui est créée en France est instantanément captée par la sphère spéculative. C'est-à-dire que la France est totalement noyée dans l'investissement spéculatif, alors qu'on devrait plutôt s'orienter. L'investissement spéculatif a remplacé l'investissement productif. Donc en gros, avec du fric, on fait toujours plus de fric, mais sans passer par les processus de production. Donc à un moment,
le plan de relance, c'est quoi le plan de relance post-Covid?
Et ton président, M. Macron, c'est ça
le plan de relance post-Covid, c'est quoi? C'est 30 milliards qui avaient été injectés dans de l'investissement productif.
Pour les plus riches de ce monde, pas pour les prolos de France.
30 milliards.
Les prolos de France, qui sont la majorité des Français, touchent toujours un SMIC et s'en sortent pas à la fin du mois.
Merci à Jimmy Dalidou, représentant syndical CGT, mais également auteur. Merci à Nabil Etakach, le représentant de Renaissance sur le département du NAF3. Merci à Mohamed Benjibour, consultant en communication. Et merci à Faisal, bon courage à lui. Il est en vacances, justement. Eh bien, à Bilal Lenman, 20h-21h, Vanessa 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, de 18h à 19h30. Mais surtout, vous le savez, hein, on ne lâche rien. Comme disait Faisal.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.